Eh bien, depuis plus de 50 ans après leur indépendance, beaucoup de pays africains peinent à relever leur économie et à opter pour une politique de développement durable. Dr Yves Ikwea Amaizo, économiste, vient de publier un réquisitoire accusant donc le Fonds monétaire international pour son rôle lugubre dans la gestion économique africaine. Nous l'accueillons tout de suite en direct depuis Vienne. Docteur Yves Ikwea Amaizo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Amos.
Merci d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique depuis Vienne, en Autriche. Vous êtes économiste et directeur du groupe d'influence Afrocentricité. Vous venez de lancer un réquisitoire sans appel sur le Fonds monétaire international, le FMI, et bien dans un article intitulé Le FMI, pyromane et pompier au Togo, en Côte d'Ivoire. Alors, Dr Yves Ikwea Amaizo, et pourquoi ce violent réquisitoire contre le FMI? Y a-t-il vraiment panique à bord, Yves Ikwea Amaizo?
Alors, merci pour l'invitation, mais vous parlez de réquisitoire. Vous savez, je n'ai rien fait d'autre que de dire la vérité à partir des dernières statistiques officielles du 31 octobre 2012 du Fonds monétaire international. Vous parlez de violents réquisitoires. En quoi une analyse de la situation structurelle d'endettement d'un pays comme le Togo ou la Côte d'Ivoire peut être violente? Rappelez-vous les décisions du Fonds monétaire international. Ces décisions dans le temps sont radicales. Elles ont fait retourner les classes moyennes, africaines ou d'ailleurs, dans la pauvreté. Les pauvres même retournent à la subsistance. Et certains pays, les gens sont dans la rue, regardez la Grèce. Donc il ne faut pas avoir une mémoire courte. Avez-vous oublié les émeutes de la faim dans plusieurs pays africains, alors que le FMI, Fonds monétaire international, exigeait le paiement sans délai d'arriérés cumulés de déficits budgétaires d'États africains, plus les intérêts, surtout qu'on payait d'abord les intérêts? Ne voyez-vous pas ce qui se passe en Grèce avec l'Union européenne qui est étranglée? Cette Grèce est étranglée par sa dette. Pourquoi tout ça? Elle est prise en tenaille par les créanciers privés, notamment les banques occidentales, mais aussi les créanciers publics, comme l'Union européenne et le FMI. Donc le problème est que je ne voudrais pas que le Togo ressemble à la Grèce. Est-ce faire preuve d'une violence ou d'un réquisitoire quand on veut démontrer qu'en fait il n'y a plus de corrélation, au Togo en tout cas, en Côte d'Ivoire certainement pas, entre une croissance économique positive, qui est le cas, et un déficit croissant du solde budgétaire externe d'un pays? Et tout ça, on ne voit pas l'amélioration du bien-être des populations, encore moins de l'emploi. Pourquoi le FMI continue à fournir des financements de court terme à un pays comme le Togo, qui a passé ses dépenses militaires, qui a vu ses dépenses militaires passer de 9% à 13% des dépenses du gouvernement entre 2005 et 2010, l'époque exactement où le président Faure Gnassingbé était au pouvoir? Alors que le Bénin voisin, on est passé de 8,1% à 6,8%. Le Bénin était en décroissance sur ses dépenses militaires. Est-ce que c'est pour frapper les gens dans la rue? Est-ce que c'est pour utiliser contre les gens qui se battent pour la démocratie? Pourquoi, sous couvert d'une langue de bois, appelée langage diplomatique, le FMI, finalement, désinforme le peuple togolais? Et le ministre des Finances togolais, il croit avoir décroché le paradis dès que le FMI nous donne un peu et nous prête un peu d'argent, un peu de crédit, alors qu'il faut payer ça avec des taux d'intérêt relativement importants. En réalité, le Togo n'arrive pas à réduire sa dette. Et j'ai vérifié, et ce depuis plus de 10 ans. Donc le pays est en fait mal géré, et le FMI continue à ne rien voir, et continue à donner des prêts. Alors la question est de savoir, est-ce que le FMI gagne dans cette opération? Ma réponse est oui. Si elle gagne, alors pourquoi elle doit attendre que nous soyons dans une situation tellement difficile pour pouvoir à ce moment-là imposer ces conditionnalités? Et vous savez ce que c'est que les conditionnalités? Puisqu'on ne peut pas payer, alors on donne quoi? On donne nos capacités productives, on donne tout ce qui permet de créer de l'argent, on transfère par la privatisation un certain nombre de choses. Voilà. Mais pourquoi ce pays doit donner, je parle du Togo, doit donner d'abord de l'argent au FMI, alors qu'on peut utiliser cet argent d'abord pour la santé, l'éducation, les droits humains, le financement des petites et moyennes entreprises, par exemple.
Justement, Dr Yves Ikwea Amaizo, dans votre réquisitoire contre le Fonds monétaire international, et on peut se poser la question pourquoi avoir justement décidé de cibler deux pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Togo et la Côte d'Ivoire?
Alors, moi je vous répondrai d'abord pourquoi pas. En fait, il se trouve que Alassane Ouattara, qui était mis à la tête de la Côte d'Ivoire, est le président en exercice de la CEDEAO, la Communauté économique et développement des États d'Afrique de l'Ouest. Et que Fornia Singbe, qui était mis à la tête du Togo, est le président en exercice de l'UMOA, l'Union économique monétaire ouest-africain. Alors, les deux, on a voulu voir s'ils sont des modèles pour la sous-région. Mais non, on s'aperçoit que leur gestion, en tout cas pour ce qui est de l'endettement, n'est pas bonne. Et il faut le dire. Et le FMI ne le dit pas tout haut. Ce n'est pas normal. Et c'est très important, parce qu'on nous montre toujours la croissance économique. Non, il faut nous montrer qu'on n'a jamais été excédentaire sur notre balance du solde extérieur courant. C'est-à-dire qu'en fait, dans tout ce que nous faisons, nos balances commerciales, nos échanges avec l'extérieur, on n'a pas amélioré la situation. Et si le FMI continue à nous donner toujours de l'argent, en fait, pour nous sauver, en tout cas sauver le gouvernement, mais ça veut dire qu'il soutient cette politique de mauvaise gouvernance. Ça veut dire qu'il veut que ça continue comme ça. Puisque dès lors que le FMI est payé, le reste n'intéresse pas le FMI. Voilà le fondement de cette discussion avec le FMI. Et il faudrait que le FMI s'explique pourquoi cette institution doit passer en priorité avant les intérêts de la population, la togolaise, ivoirienne, béninoise ou d'autres. Voilà le fond du dossier. D'ailleurs, le FMI engrange de substantiels bénéfices sur ses prêts de court terme. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a derrière? On n'a jamais vu le FMI avoir des difficultés financières en tant que tel. Et quand ils en ont, ce n'est pas à cause de l'Afrique, c'est à cause d'autres pays. Et souvent à cause des politiques que ce même fonds monétaire a imposées à ces pays. On ne va pas citer le Mexique, on ne va pas citer l'Argentine et bien d'autres encore, ou même l'Égypte. Vous voyez? Donc c'est très important que les gens puissent ouvrir les yeux sur le rôle de ces institutions dans lequel, quand vous regardez le conseil d'administration, ceux qui décident, ben écoutez, les Africains, s'ils représentent 2%, c'est le grand maximum. C'est-à-dire que ce n'est pas une institution qui est là pour défendre les intérêts ni de l'Afrique, ni des Africains.
Docteur Yves Kouyamaïso, merci d'éclairer nos auditeurs sur votre réquisitoire contre le Fonds monétaire international. Alors, un de vos propos pourrait également interpeller la conscience d'un Africain de Côte d'Ivoire et du Togo, puisque vous avez mis l'accent sur ces deux pays et vous affirmez donc dans votre réquisitoire, je cite, avec le FMI, et c'est la tchèque sans poisson en Côte d'Ivoire et la sauce sans viande au Togo. Alors, docteur Yves Kouyamaïso, que voulez-vous réinsinuer à travers ces propos que vous avez tenu dans votre réquisitoire contre le Fonds monétaire international?
Non seulement je maintiens ce que je vous avais dit, mais je vais vous le préciser. Il y a une vingtaine d'années, vous mangez au Togo une sauce avec de la viande dedans. En Côte d'Ivoire, la tchéké était accompagnée d'un poisson. Au Sénégal, vous avez le tchèbdine avec du poisson, voire l'escargot dessus. Aujourd'hui, avec toutes ces difficultés et ces mesures appliquées, justement, ben, beaucoup de familles pauvres, voire même la classe moyenne, ne peut plus se permettre tout cela. J'irai même plus loin que dans mon article. La tchéké dont je vous parle, la sauce dont je vous parle, qui est sans viande d'un côté et sans poisson de l'autre, savez-vous que vous l'achetez à crédit? Vous n'avez même pas l'argent pour l'acheter. La population togolaise, dans sa grande majorité, ne peut même pas s'acheter cette sauce. Encore moins la tchéké en Côte d'Ivoire. C'est ça le fond du problème. Alors, si c'est ça la situation, pourquoi un État doit prendre de l'argent et d'abord aller rembourser quelqu'un qui, lui, si vous ne lui donnez pas à manger, le FMI ne mourra pas de faim? C'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Il faut arrêter de parler de statistiques. Ce sont des individus comme vous et moi qui vont mourir, et qui meurent d'ailleurs, à cause de décisions. Savez-vous qu'au Togo, il y a à peu près... En 2005, l'ensemble de notre dette, nous devions rembourser par Togolais $14. $14 en 2005, quand Fornia Singbe est arrivé au pouvoir. Savez-vous qu'aujourd'hui, il a tellement endetté le pays qu'aujourd'hui, on doit rembourser $84 par personne. Mais vous savez très bien que personne ne va rembourser cet argent. Et comme on ne peut pas rembourser, mais on fait des crédits. Mais si on fait des crédits, mais vous oubliez la tchéké. Vous oubliez la sauce, vous le prenez à crédit. Et si vous ne pouvez pas, mais je vais commencer par récupérer ce qui vous appartient, le sol, vos propriétés, et tout ce qui produit de l'argent.
Docteur Yves Kouyamezo, merci pour vos développements très pertinents. Alors, vous parlez également dans votre réquisitoire contre le FMI de la crise financière criée par l'excès de d'irrégularisation des dirigeants occidentaux. Et alors, pouvez-vous expliquer, et quand même aux novices en économie qui nous suivent actuellement sur le www.canalk.ch, le thème de dérégularisation et ses conséquences quand même sur l'économie africaine?
Non, avec plaisir, mais d'abord, ne croyez pas qu'on est contre quelque chose. On n'est pas contre le FMI. On est contre une politique qu'appliquent ces institutions. Si demain matin, cette institution change, écoute ce que les économistes togolais ou ivoiriens ou sénégalais ou d'autres peuvent leur proposer comme solution et les mettre en œuvre, nous n'avons aucun problème avec les institutions en tant que telles. Donc, il ne faut pas nous opposer. On n'est pas là en tant que tel des opposants. On est là en train de regarder si ce qu'ils font est efficace. L'efficacité signifie que les populations mangent mieux et qu'ils trouvent de l'emploi parce que, en fait, il y a des erreurs de gouvernance qui sont faites par les États et les dirigeants de ces États et qu'il faut, en fait, sanctionner. Mais en donnant de l'argent, ils ne sanctionnent pas ces gens-là. Donc, ils les soutiennent. Alors, pour la dérégulation, c'est dans un cadre beaucoup plus global. C'est Donald Reagan, c'est Mme Thatcher, c'est toute cette équipe-là, qui sont plutôt de la droite, qui sont venus en disant non, il faut revenir à des anciennes théories économiques qui disent que le marché s'équilibre. Quand vous allez au grand marché de Lomé, ou celle de Sandaga à Sénégal, et écoutez, au bout d'un moment, chacun achète et vend, le prix va s'équilibrer sur le marché. C'est peut-être vrai en théorie, mais dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Parce que si moi j'ai plus d'argent que vous, si je suis plus puissant que vous, mais je peux imposer mon prix. Si je suis le seul à avoir un produit que les autres n'ont pas, je peux imposer un prix. Je peux aussi même vous imposer jusqu'à vous vendre ce qui n'est même pas bon, puisque les gens peuvent vendre des produits avariés sur un marché. Donc il vous faut de la régulation. C'est le rôle de l'État. L'État regarde ce qui est bien pour l'ensemble des populations, met des textes, des lois, des règles, on parle de régulation, en place. Et en principe, se sort de l'histoire et les acteurs économiques, publics comme privés, s'organisent autour de cette règle qui doit être prévisible. Malheureusement, ça ne se passe souvent pas comme ça. Et en fait, cette dérégulation s'est développée à l'excès, au point qu'on a cru que même ceux qui investissent, non plus dans la production, mais dans les bourses, c'est-à-dire qu'en fait, certains vont financer à travers la bourse des entreprises, mais pour la plupart, c'est de la spéculation. Et donc cette spéculation-là, on n'a jamais vu quand est-ce que ça enrichit les peuples. Ça enrichit quelques-uns, oui, et encore, ce n'est pas toujours sûr. Alors pour résumer tout ça, c'est comme si vous mettez un caïman, un homme, un lion, un agneau près d'un marigot, et vous dites que chacun est libre d'aller boire de l'eau. C'est ça la liberté. Il n'y a pas de règles. Vous croyez que le caïman et le lion vont avoir des difficultés? Mais l'homme, il risque de se faire manger soit par le lion, soit par le caïman.
Bien sûr, oui.
L'agneau, il risque de se faire avoir par le lion ou par le caïman, voire par l'homme aussi. Donc si on mettait une règle, justement, que chacun doit y aller à tour de rôle, et qu'il y avait un petit policier qui s'organisait et qui organisait tout ceci, vous avez vu, la fonction de la règle devient intéressante. Bien sûr, elle ne doit pas non plus empêcher l'initiative privée. Elle ne doit pas empêcher chacun d'avoir le choix de boire ou de ne pas boire. Mais vous voyez déjà le problème qui se pose. Et je peux vous dire que le caïman, en affaires, ça existe. Hein? Les lions qui ont le pouvoir surtout en Afrique, ça existe. Au fond, l'agneau, c'est la population togolaise. C'est les populations de chacun des pays africains qui n'ont souvent pas le choix et qui subissent donc cette dérégulation et qui se retrouvent avec des prix qui augmentent énormément, de l'emploi qui n'est pas créé alors qu'il y a une croissance, etc. etc. D'ailleurs, venons-en aux États-Unis. Rappelez-vous que M. Obama vient d'être réélu. Mais vous savez ce que disait la droite, celle de Mitt Romney et même celle d'avant? C'est qu'il ne faut pas intervenir justement dans l'économie. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand General Motors, la grande structure qui fabrique des Cadillac, qui fabrique des Chevrolet, qui fabrique des Buick, des Pontiac, et j'en cite des meilleurs de voitures, quand ils ont mal géré, parce qu'ils ont une mauvaise gouvernance d'entreprise, et qu'ils étaient en train de couler avec un certain nombre d'Américains qui allaient se retrouver au chômage. Mais c'est M. Obama qui s'est levé en disant, écoutez, vos histoires de ne pas intervenir dans le marché, ça ne marche pas. Moi, je vais privatiser. Et en fait, comme c'est un État, il a donc nationalisé. Il a pris sur lui General Motors. Il a viré, pour, excusez-moi le terme, les dirigeants. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne ni en Europe ni en Afrique. On ne chasse pas les dirigeants qui sont des mauvais gestionnaires. dans nos pays. Et il a mis d'autres, plus efficaces, et aujourd'hui, non seulement cette entreprise marche mieux maintenant, non seulement elle rembourse la dette que l'État lui avait payée, mais elle a retrouvé son activité normale de secteur privé. Donc vous voyez que quand la régulation est bien faite par des gens intelligents, ça fonctionne relativement.
Bien sûr. Et en revanche, on constate, docteur Yves Ekwemaiso, que les pays émergents comme la Chine et le Brésil, et qui ne sont pas sous le joug du Fonds monétaire international, et quand même ces pays réussissent et leur développement. Eh bien, si ces pays sont des modèles à suivre, et qu'est-ce qui empêche donc les pays africains à suivre l'exemple de ces pays-là? Et docteur Yves Ekwemaiso.
C'est une question très complexe. Je ne suggérerais pas que ce sont des modèles à suivre. Ce sont des exemples. Parce que chaque pays a sa culture et son histoire, et il aura son histoire et sa façon d'organiser son développement. Par contre, il faut vous rappeler que ces pays émergents, la Chine entre autres, le Brésil, l'Inde, et bien d'autres encore qu'on ne cite pas, sont ceux qui ont décidé de ne pas suivre les conseils du Fonds monétaire international. Ce sont ces pays qui ont décidé et même dit que ce que poursuit en in fine le Fonds monétaire international va à l'encontre des intérêts des populations chinoises, pour parler de la Chine. Et la Chine a décidé non seulement de ne pas suivre, non seulement de ne pas écouter, mais de ne veut même pas les voir s'impliquer dans les affaires chinoises. Résultat des courses, mais voilà une Chine qui a réussi à sortir un certain nombre de millions de personnes de la pauvreté, qui a réussi à faire passer les gens paysans qui faisaient du riz dans le secteur industriel, qui a réussi à attirer les investissements étrangers directs, notamment d'Europe, et la Chine qui continue sa route, et tout le monde continue à dire que la Chine ne va pas. Ils sont quand même à 8 ou 9% de croissance, quand l'Europe est à 0, 1, 1,5, les États-Unis à 2, l'Afrique est à 5% de croissance. Donc attention, il faut revenir à nos valeurs ancestrales de solidarité, de justice, d'équité, de liberté aussi, pour qu'il puisse avoir une capacité de nos États et de nos dirigeants à rendre des comptes aux populations. Ça, c'est l'exemple à suivre. Et effectivement, rendre des comptes aux populations n'est pas aussi évident au Brésil comme en Chine, d'ailleurs. Regardez comment les élections du nouveau président, Xi Jinping, qui a été élu. Donc, l'exemple à suivre, oui. Le modèle, non. Les modèles sont les modèles de chaque pays, de chaque région, de chaque entité, et ça vient des populations elles-mêmes. Il faut que le peuple africain, le peuple togolais et ivoirien puisse avoir le courage de se dire « mais qu'est-ce que je veux au fond ?» Et est-ce que si je choisis tel ou tel individu ou groupe d'individus pour me diriger, c'est pour obtenir quoi? Pour accepter que ces messieurs se lèvent, distribuent l'argent comme de la corruption. Pas pour mettre des systèmes de rente où ils prennent de l'argent, notamment des mines, non transformées et les renvoient. Non. La richesse se fait d'abord à partir de la transformation. Donc nous avons suffisamment de richesses que Dieu nous a données sur nos territoires. Donc transformons-le. Dans la transformation, vous créez de l'emploi. Il suffit que ces emplois soient bien payés. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que les chefs d'entreprise africains, là aussi, ont un gros problème de compréhension. Le capitalisme, s'il marche, c'est qu'il marche bien quand on distribue des salaires et des salaires décents. Et à ce moment-là, oui, ce salaire décent crée le pouvoir d'achat et ce pouvoir d'achat permet de racheter les produits qui ont été fabriqués et l'économie se met à tourner. L'argent doit circuler. Mais on ne peut pas avoir d'un côté des gens qui ont la rente, qui, quand ils n'arrivent pas à avoir la rente, notamment minière, s'amusent à les taxer, à prendre de force ce que d'autres ont créé de richesse. Et donc, c'est une injustice fondamentale. Ce n'est pas donc étonnant qu'on peut même arriver à ce que peut-être que certains de ces présidents en sont malades. Parce que la maladie existe pour ces présidents aussi, du fait même de ces mauvaises pratiques, que ce soit au Togo comme à Côte d'Ivoire.
Bien sûr. Alors, vous parlez de la malgouvernance en Afrique, au Togo, en Côte d'Ivoire, dans la plupart des pays africains. Alors, effectivement, certains dirigeants africains panafricanistes et visionnaires, si on pourrait interpréter ce thème, ont essayé de frapper monnaie et ont été effectivement assassinés, ça c'est l'histoire nous l'a quand même confirmé. On peut citer entre autres le cas du premier président du Togo, Silvanus Olympio, et les gens d'autres aussi citent le nom tout récemment de l'ancien président Laurent Gbagbo, et qui termine son parcours politique à la haie. Alors Ekwemaiso, est-il vraiment dangereux de frapper monnaie actuellement en Afrique?
La question, je crois, est mal posée. Le problème n'est pas de savoir si c'est dangereux ou pas. Le problème est de savoir si on veut une souveraineté. Je peux poser la question autrement. Est-ce que les Africains veulent rester éternellement des esclaves monétaires? Est-ce qu'ils veulent céder 50% pour ce qui est de la zone franc, 50% de leur richesse au trésor français, donc géré en fait par la France? Est-ce qu'ils veulent faire que ces 50% de leur richesse ne servent pas à financer leur petite et moyenne entreprise, leur santé, leur éducation, mais que ça serve d'abord à la France, en fait, qui décide de le réaffecter au fond, là où la France veut? Et comme la France a des difficultés assez importantes en ce moment, ne vous faites pas de soucis. Le mot solidarité, dans la bouche même des dirigeants français actuels, signifie d'abord d'aller servir la France avant la zone franc. Il ne faut pas se faire des soucis là-dessus. Donc, la question n'est pas que c'est dangereux ou pas. Le problème est que on ne peut pas faire ça seul. C'est le problème de Silvanos Olympio, qui avait été sur le point de sortir cette monnaie en décembre 62, et il est mort le 13 janvier 63, ou Laurent Gbagbo, qui tous deux ont cru qu'on pouvait faire les choses seuls. Non, il faut une convergence monétaire, il faut une grande région, la CDAO est bien disposée pour ça, il y a 15 pays, ça peut être au-delà d'ailleurs, avec même l'Afrique centrale, et ensemble, oui, d'ailleurs ce n'est pas dangereux quand on est ensemble, puisque ça devient une forme d'union fait la force. Mais bien sûr, si chacun, de son point de vue, dans son coin, ben, se décide de le faire, ils vont aller où? Nulle part, c'est ce qui se passe. Donc, les résistances, que ce soit à l'extérieur, comme en Afrique, ne croyez pas que les autres présidents africains ne soient pas, de temps en temps, des traîtres par rapport à leurs propres frères ou leurs propres parents présidents. C'est aussi ça, le problème. Parce que quand vous demandez aujourd'hui à la France, est-ce que les chefs d'État africains veulent sortir de la zone franc? Mais vous serez étonné de la réponse. Ce n'est pas la France qui pose toujours le problème. C'est d'abord les chefs d'État africains. Et après, ils viennent vous faire d'autres discours quand ils rentrent au pays. Donc, il faut qu'on soit conscient de ces choses-là. Et quand vous regardez les résultats de la zone franc par rapport à d'autres zones africaines monétaires, vous vous apercevez, à part le problème de l'inflation qui est resté relativement bas, et je crois que c'est les statistiques qui le disent, parce que la vie est chère quand même à Lomé ou ailleurs, mais tout le reste n'a pas vraiment fonctionné. On a bloqué l'industrialisation, on a bloqué le développement des petites et moyennes entreprises, la création de richesses cumulatives ne se fait pas, et beaucoup plus grave, des interférences de l'État, interventions se font quasiment systématiquement, sans aucun moyen de traîner l'État devant un tribunal et de gagner. Voilà le résultat Merci. De cette façon de gérer depuis des années.
Merci.
Donc, la monnaie, au fond, va permettre Merci. De faire que ce que le travail que vous avez fait, la sueur que vous avez fait tomber, Justement. C'est bien le vôtre. Et la valeur de cette sueur, c'est ça que vous allez utiliser pour aller acheter un bien X ou un service Y, là où vous le voulez. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui décide, l'ensemble de nos matières premières sont fixées encore à Chicago. Et c'est fixé dans la monnaie dollar. Et
vous
voyez
comprend.
Le dollar qui est relativement faible aujourd'hui.
Donc, merci beaucoup, merci beaucoup, docteur Yves Ekwe-Amaizo, de nous avoir éclairé sur les problèmes qui minent l'économie africaine, notamment au Togo et en Côte d'Ivoire. Encore une fois, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Vienne, en Autriche.
VRA, Voix de la Résistance Africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Bien, intérêt personnel déguisé, malentendu politique en Afrique, chanté par Jade Fosis, c'est son nouveau single sur dans cette émission préférée, Fenêtre sur l'Afrique.
Ceux qui sont au pouvoir s'y accrochent, et on essaie pourquoi, même si autour de tout s'écroule, ils prétendent aimer ce peuple. Malentendu politique, yeah.
bien, merci à toutes et à tous d'avoir été en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci à nos invités Alain Jules et Dr. Yves Kouya Maïzo. Merci également à notre radio partenaire, le Jean d'FM à Lomé au Togo. Notre radio partenaire également, la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous. Sylvain Amos vous a conduit, son équipe vous a conduit pendant 60 bonnes minutes qui viennent de finir. Excellente soirée à tous et rendez-vous samedi prochain, même heure, sur Radio Canal Corps dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique.